Oui, la science peut-elle être neutre? C'est le thème de toute notre journée. Alors, je me positionnerai effectivement en tant que philosophe, épistémologue, philosophe des sciences, aussi hein, en théologienne, simplement, disons, selon la déontologie de notre réseau, que chacun intervient dans son domaine de spécialisation. Et c'est vrai que j'ai fait la physique dans une vie antérieure, mais c'est un peu loin aussi, un peu moins loin quand même que pour une école. Donc, pour répondre à la question, c'est aller un peu plus loin aussi que le bac, c'est vrai. Alors, pour répondre à la question, la science peut-elle être neutre, je procéderai en deux étapes. Je poserai d'abord l'observation. La science est-elle neutre dans les faits? Et ensuite, je proposerai une analyse du point de vue chrétien. La science peut-elle, doit-elle être neutre? Et aux deux étapes, ma réponse sera en gros oui et non. Comme ça, si jamais vous voulez dormir dans les 45 minutes qui viennent, vous avez au moins le résumé de mon intervention. Bien sûr, je dirai un peu plus que simplement oui et non. Et surtout, en conclusion, je proposerai une synthèse qui permettra de comprendre ensemble neutralité et non-neutralité de la science. Et peut-être encore un mot aussi, la science dont je parlerai sera toujours les sciences de la nature. Je ne parlerai pas des sciences humaines, donc dans la compréhension d'ailleurs du réseau des scientifiques évangéliques, donc il comprend la science dans le sens des sciences de la nature. Alors bien sûr, il y a sur les bords, hein, donc c'est parfois un peu difficile à définir. Bon, nous incluons les mathématiques, nous incluons les sciences appliquées, mais je ne parlerai pas des sciences humaines. Donc ma réponse ne concernerait pas les sciences humaines. Alors, si je réussis à faire marcher cet appareil. Non. Donc, d'abord, l'observation. Et donc, je commencerai par la réponse affirmative. Donc, la science peut-elle être neutre? Donc, j'ai intitulé cela comme l'objectivité de la science. Et je prendrai comme critère, en fait, pour tester si la science, dans les faits, est neutre ou non, je prendrai le consensus. Le consensus entre scientifiques comme indice de la neutralité de la science. Et si on prend ce critère, on pourrait prendre d'autres critères, mais si on prend ce critère-là, il y a des faits tout à fait remarquables. On constate donc une collaboration très large entre scientifiques de convictions religieuses, philosophiques, politiques très variées, des scientifiques d'origine ethnique variées aussi, d'origine sociale. C'est vrai, on pourrait peut-être souhaiter plus de diversité, mais la science est un phénomène international. Et non seulement collaboration, mais très large consensus sur les résultats scientifiques. Parce qu'on pourrait imaginer aussi une collaboration entre différents chercheurs qui n'aboutirait pas sur un consensus, mais le domaine des sciences de la nature se caractérise par un consensus assez large sur les résultats accepté. Il suffit de comparer justement les sciences de la nature aux sciences humaines ou à l'esthétique, qu'est-ce qui est beau, ou encore au domaine religieux pour se rendre compte de ce phénomène tout à fait remarquable. Et donc la science doit manifestement fournir une méthode pour aboutir à des connaissances et des applications de ces connaissances sur lesquelles tous, au moins beaucoup, peuvent se mettre d'accord. Et face à ce constat de consensus, les sciences de la nature, en fait, font rêver les autres chercheurs. Et on pourrait donner un nombre important, disons, de penseurs qui ont essayé de modeler, en fait, la philosophie, par exemple, sur le modèle de la science. Je vous donne juste un exemple. Kant parle de la voie sûre de la science. Donc, cette idée chez Kant, qu'il faut essayer de faire de la métaphysique comme une science. Et donc, essayer d'élaborer une métaphysique qui serait aussi sûre, aussi consensuelle, aussi objective que la science. Et ce rêve de modeler toute la connaissance humaine sur le modèle de la science, en fait, a très largement dominé des pans entiers de la philosophie du 19e et du 20e siècle. Et je vous donne là encore un exemple, disons, concret que j'ai vécu là il y a quelques jours, disons, deux semaines en arrière. J'étais avec un ancien professeur de sciences appliquées, bulgare, qui avait été professeur de sciences appliquées, donc sous le communisme, et donc qui est devenu chrétien, et qui m'a dit que pendant longtemps, donc quand il était communiste, pour lui, il faisait une très nette différence entre les religions d'un côté et le communisme de l'autre. Donc le communisme qui pour lui était une démarche rationnelle, scientifique, donc aussi rationnelle que la science, aussi prouvée que la science. Et c'était bien la prétention du communisme de présenter un matérialisme scientifique, d'ailleurs rien que le terme le disait. Et pour lui, un moment clé pour venir à la foi, c'était quand il s'est rendu compte que le communisme impliquait aussi une démarche de foi, une vision de monde qui faisait intervenir certaines convictions qui justement n'étaient pas prouvées au-delà de tout doute raisonnable, mais qu'il y avait un engagement personnel et donc un engagement de foi. Alors, l'objectivité de la science, donc objectivité qui fait même rêver, je dirais, ceux qui sont extérieurs à ce domaine ou ceux qui sont à l'intérieur de ce domaine, qui essaye de l'étendre à d'autres domaines. Mais il y a une autre face des sciences. Quand on regarde de plus près, la science n'est pas si consensuelle que cela. Et donc du coup, si je prends le consensus comme critère de neutralité, elle n'est peut-être pas si neutre que cela. Alors mon deuxième point que j'ai appelé la condition socio-historique de la science. Car un examen plus fin révèle que l'image du consensus universel en science ne tient pas, en tout cas ne tient pas, sans nuance. Le consensus constaté dépend déjà de la définition qu'on utilise de la science. Et parfois, on a l'impression qu'il y a même, disons que c'est même une définition un peu circulaire. Ce qui n'est pas consensuel est rejeté de la science, n'est pas scientifique, alors que cela se rattache quand même à la science. Donc, le consensus ne s'obtient que par l'exclusion du domaine scientifique, par exemple, de considérations éthiques, et de considérations éthiques rattachées à la pratique de la science. Est-il permis ou non de faire des expériences sur des embryons humains ou sur des animaux? Je pense, je n'ai pas fait de sondage, je n'ai pas vérifié, j'imagine que ces sondages existent, qu'on trouve au sein des scientifiques la même diversité d'opinions sur ces questions éthiques que dans la population plus large. Ou encore l'exclusion de l'épistémologie, donc la philosophie des sciences. Par exemple, une question comme la suivante, la science nous donne-t-elle accès à la connaissance du monde, donc qui existe en tant que tel, indépendamment de notre exploration, de notre démarche, ou la science n'est-elle qu'un instrument qui nous aide à mieux nous orienter dans le monde, laissant nous délivrer de connaissances sur le monde? C'est le débat entre réalisme et instrumentalisme. C'est vrai que la plupart des scientifiques sont réalistes, mais peut-être pas tous. Mais ce qu'on va dire, ça, c'est pas de la science, c'est de l'interprétation de la science, c'est la philosophie des sciences. Où je prends un autre exemple, justement le matérialisme scientifique promu par les communistes, où il y avait très clairement la prétention de fonder sur la science une philosophie matérialiste. Alors là, il n'y a certainement pas accord sur ce point-là, et en fait, on l'exclut de la science. Et un dernier élément aussi intéressant à constater, ce qu'on pourrait appeler la pseudo-science. La parapsychologie, par exemple, l'astrologie, où vous n'allez pas, je pense, réussir à placer un article dans un journal scientifique, disons, qui se ferait l'avocat peut-être de la parapsychologie, mais même un article qui se ferait, qui s'opposerait à la parapsychologie, parce que l'éditeur jugera que c'est pas du tout utile hein, de mener un argument scientifique pour réfuter une telle approche, et donc ça ne relève pas du débat scientifique. Et alors peut-être j'ai pris des exemples extrême, mais si vous pensez à tous les débats actuels pour savoir si l'intelligent design est scientifique ou non, hein, on est exactement dans cette question de la délimitation entre science et pseudo-science. Mais même si on va dans le domaine scientifique et incontestablement scientifique, on constate que le consensus est en fait repose hein, sur un certain nombre de faits. Alors, il y a d'abord un contrôle institutique précis. On ne s'invente pas scientifique, on ne s'autoproclame pas scientifique. On le devient au cours de longues études, d'ailleurs qui relèvent un peu du rite d'initiation. Quand je pense à ma soutenance thèse, bon, c'était en philosophie, c'était pas en sciences, il y a des similitudes hein, entre une soutenance thèse et un rite de passage. Et je pense qu'une certaine bizarrerie d'une soutenance thèse ne s'explique que par ce rôle social hein, de rite de passage. Ou encore, hein, l'exigence de publier et de publier dans des journaux avec comité de lecteurs. Donc il y a un contrôle par des pairs. Et bien sûr, cela vaut aussi pour l'obtention des postes, etc. Bien sûr, cette observation-là ne relève rien au fait que le consensus obtenu est remarquable. Parce que vous avez à peu près les mêmes mécanismes de contrôle, par exemple en philosophie académique, mais qui n'aboutissent pas à un consensus. Donc je pense que le consensus est toujours remarquable en science. Mais il ne faut pas oublier qu'il passe quand même aussi, ou qu'il s'appuie aussi sur certains mécanismes institutiques. Alors, il y a aussi le refus de prendre en considération des détracteurs. Et pas seulement des farfelus. Alors bien sûr, hein, des farfelus, il y en a. Et d'ailleurs, qu'on ne veut même pas réfuter, on va simplement les ignorer. Mais il y a des détracteurs à l'intérieur de la science même et parfois très respectables qu'on va quand même simplement ignorer. Alors l'exemple dans mon propre champ de scientifique, donc l'exemple le plus frappant est certainement le refus d'Einstein d'accepter la mécanique quantique comme une théorie complète de l'ordre microscopique. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce débat, mais donc Einstein qui avait contribué lui-même à l'élaboration de la mécanique quantique, il a contribué à des éléments importants, ce n'est pas lui qui l'a vraiment trouvé, mais il a contribué. Une fois que la version mûre de la mécanique quantique donc est élaborée au milieu des années 20, Einstein va se mettre en retrait, parce qu'il ne peut pas accepter le caractère indéterministe de la mécanique quantique. En fait, il ne peut pas l'accepter parce qu'il est très influencé par la philosophie de Spinoza, et donc une vision déterministe du monde. Et il va écrire un article devenu célèbre en 1930, hein, donc avec Podolsky et Rosen, qui expose ce qu'on va appeler plus tard donc le paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen. Et quand on regarde comment la communauté scientifique a réagi, et là, en tout cas pendant plusieurs décennies, très largement réagi par l'ignorance, hein, ou simplement le refus. Donc Niels Bohr, un des pères de la mécanique quantique, donc a rédigé, c'est en 1930, une réponse à l'article d'Einstein, où il balance l'argument. Manifestement, il n'a pas compris la profondeur de l'argument d'Einstein. Et bon, j'ai discuté récemment avec un élève de Heisenberg qui était dans un autre des fondateurs de la mécanique quantique et qui m'a dit que pendant toute sa vie, Heisenberg toujours disait, bon, Bohr a répondu à Einstein, on s'occupe plus d'Einstein. Alors, c'est vrai que c'est dans les années 60 qu'on est revenu sur cet article d'Einstein, qu'on a continuer hein, à travailler sur cette question avec même une vérification hein, donc expérimentale d'ailleurs faite en France, à Orsay, dans les années 90, où on a pu en fait constater que le fait ou l'effet hein, donc Einstein mettait en avant donc existait bel et bien, qu'on pouvait le montrer. Donc Einstein avait tort de refuser la mécanique quantique pour cette raison-là, mais son argument proposé était loin d'être stupide ou, je veux dire, a même aidé au final de faire progresser la recherche. Mais pendant plusieurs décennies, on l'a simplement mis de côté, et on voit d'ailleurs Einstein, à la fin de sa vie, est isolé hein, de la communauté scientifique parce qu'il refuse d'aller dans le même sens que des recherches sur la mécanique quantique. Et je pense que dans d'autres domaines, on pourrait trouver des éléments, des exemples similaires. Mais là, c'est un exemple particulièrement frappant. Alors, une ignorance quant aux questions épistémologiques aussi, qui se posent à l'intérieur même de la science. Bon, je pense, par exemple, à l'interprétation ou aux interprétations divergentes de la mécanique quantique, ou prenons un exemple mathématique de la question de l'intuitionnisme. Et alors, si je dis ignorance, c'est assez volontaire. Je pense que la plupart des scientifiques, sauf s'ils s'intéressent aux questions de philo, ne sont même pas conscients ou très vaguement conscients de ces questions-là, et dans le cadre des études, on est rarement exposé en fait à ces débats. Et un dernier point, le consensus est en particulier absent des domaines à la pointe de la recherche. Alors, de nouveau, il est remarquable que semble-t-il qu'il y ait des mécanismes pour quand même aboutir hein, ensuite à un consensus, mais à la pointe de la recherche, ce consensus n'existe pas. Prenons l'exemple de la théorie des cordes. D'ailleurs, là aussi, hein, certains qui disent que c'est pas de la science, hein, la théorie des cordes, mais en tout cas, c'est un domaine où il y a certainement pas de consensus, et donc où on peut se dire, bon, la neutralité de la science, en tout cas, il y a des facteurs extra-scientifiques, semble-t-il, qui sont en jeu. Alors, un livre fétiche, je vais simplement donner le titre sans expliquer maintenant son contenu. C'était le livre de Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, 1962. Donc, il propose un modèle de la science qui tient compte justement des éléments, donc des moments de révolution, de changement, et qui tient compte aussi de l'absence de consensus à certains moments. Alors, face à ce constat hein, sur la neutralité hein, ou l'objectivité de la science, quand même l'objectivité qui est à nuancer, prenons ou passons maintenant à la perspective chrétienne sur la neutralité de la science, et d'ailleurs j'ai prudemment dit une perspective chrétienne sur la neutralité de la science, et je commencerai donc par quelques éléments de la perspective biblique, judéo-chrétienne si vous voulez, qui favorise l'objectivité, donc la neutralité de la science. Alors, d'abord, dans une perspective biblique, donc l'homme est placé dans un monde créé par Dieu, et ce monde créé par Dieu est un monde ordonné. Genèse 1, les six jours de création, la séparation entre le ciel et la terre ferme, la terre ferme la mer, les espèces, hein, chaque être vivant selon son espèce, donc nous sommes face à un monde ordonné, et donc un monde avec un ordre objectif, d'ailleurs Émilie Cole l'a rappelé tout à l'heure aussi dans Job 28, donc cette sagesse que Dieu a établie hein, dans ce monde d'ailleurs ordonné, là c'est les phénomènes météorologiques qui sont mis en avant, d'ailleurs c'est très intéressant quand même comme exemple, parce que les phénomènes météorologiques sont des phénomènes désordonnés, ils sont apparemment désordonnés, par excellence, ce qui explique pourquoi jusqu'à ce jour les prévisions météorologiques sont si hasardeuses, et c'est sans doute la conviction monothéiste hein, de l'auteur qui l'amène à affirmer que même ce domaine-là hein, relève d'un ordre. Donc, l'objectivité de l'ordre naturel à explorer, l'universalité de la raison humaine. Donc, tout homme est créé en image de Dieu et donc partage hein, une même vocation, une même faculté aussi. Et on peut même souligner que Dieu maintient le pécheur en vie, même après la chute, et il maintient aussi le pécheur en vie, et il lui maintient aussi l'exercice de certaines, en tout cas de ses facultés, dont la raison. En théologie, nous parlons de la grâce commune, hein, c'est la grâce qui s'étend donc à tout. À tous les hommes, c'est pourquoi on dit grâce commune, et donc qui permet donc à l'homme, même devenu pécheur, de jouir des facultés qu'il a eues, que Dieu lui a conférées par la création, même si ces facultés sont abîmées, perverties, ne sont pas toujours utilisées à bon escient, mais l'homme continue à être un animal rationnel, hein, même l'homme pécheur. Alors, un troisième et dernier point ici, ce qu'on appelle souvent le naturalisme méthodologique, le terme est piégé et soulève des débats, donc je l'utilise dans un sens plus restreint de ce qui est habituel. Alors, qu'est-ce que je veux dire, ou qu'est-ce qu'on dit, hein, quand on dit naturalisme méthodologique, et ensuite j'introduis les quelques nuances qui me paraissent importantes. Alors, le naturalisme, dans le contexte en philosophie des sciences, est d'abord la conviction que seule la nature existe, donc, ou si vous voulez, seul le monde qui se laisse décrire par les sciences de la nature existe. Hein, donc, quelqu'un donc, qui est naturaliste dans ce sens-là exclut, par exemple, le monde des esprits, Dieu. Alors, ici, disons, pour les chrétiens, bien sûr, il n'est pas question d'accepter le naturalisme sous cette forme-là. C'est pourquoi on rajoute les qualificatifs méthodologiques. Donc, cela veut dire qu'on prend le naturalisme comme une règle méthodologique, comme une façon de faire la science. Donc, ça veut dire qu'on fait la science sans faire intervenir Dieu. Donc, quand on publie un article dans un journal scientifique, on ne va pas dire, bon, donc j'ai fait une certaine expérience, elle a donné un résultat surprenant, certainement Dieu a accompli un miracle. Pourtant, pour les chrétiens, c'est pas du tout exclure que Dieu a accompli un miracle, mais il ne va pas le publier, s'il est convaincu que Dieu a accompli un miracle, il ne va pas le proposer pour publication dans un journal scientifique. Alors, ce terme, d'ailleurs, a été proposé d'abord par un chrétien, semble-t-il, donc par un professeur de Wheaton College, donc, qui aurait forgé ce terme. Maintenant, il est un peu délicat d'usage parce que souvent, il est vraiment compris dans le sens qu'on fait de la science, donc si on y croyant ou non, on la fait de la même façon. Et je vais vous montrer tout à l'heure qu'on ne doit pas la faire tout à fait de la même façon. Donc, il serait peut-être plus juste de parler d'une science naturaliste, hein, en tout cas une science qui ne fait pas explicitement référence au divin, même s'il y a implicitement une référence au divin, comme j'essaierai de vous montrer. Et alors, il me semble que c'est la doctrine de la création qui nous permet de faire une science, disons, sans faire intervenir de façon explicite Dieu. Pourquoi ? Ben, la création, en fait, établit un domaine différent de Dieu. Et donc, permet donc une description aussi, hein, donc, en termes de cause à effet, pris vraiment dans le domaine de la nature. Alors, je pense qu'on le comprend le mieux quand on prend peut-être des conceptions rivales du monde. Par exemple, pour un animiste, on ne peut pas avoir de science naturaliste, ou de science qui ne se réfère pas directement au divin. Donc, vous tombez malade dans une conception animiste, ça relève de l'action des esprits. Donc, quelqu'un vous a jeté un sort. Et chercher une explication purement naturelle à votre maladie est un non-sens dans une conception animiste. Dans une conception panthéiste aussi, vous avez confusion entre le monde et le divin. Donc, faire de la science, c'est en même temps, disons, adorer Dieu. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, pour Einstein, donc qui était panthéiste, la science était une pratique profondément religieuse, et en fait la seule pratique religieuse acceptable pour un homme moderne. Mais ici, me semble-t-il, nous retrouvons en science disons, le parallèle de la séparation entre l'Église et l'État, qu'on peut retracer à la parole de Jésus, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Non pas pour dire que César serait un deuxième Dieu indépendant de Dieu, non, c'est Dieu qui est souverain même sur César. Il y a quand même un domaine qui a une certaine autonomie établie. Alors, une perspective chrétienne sur la neutralité de la science, maintenant, aussi des éléments qui soulignent davantage la non-neutralité de la science. Alors, peut-être juste pour dire que si je dis une perspective chrétienne, déjà, c'est plus humble dans la façon de formuler, donc ça passe mieux, mais c'est aussi parce qu'effectivement, les avis entre chrétiens divergent. Vous avez en gros là, disons, les deux grands courants, donc un courant qui se réclame de Thomas d'Aquin, qui va très fortement mettre l'accent sur l'objectivité de la raison, et le courant augustinien, donc Augustin, Calvin, et ensuite ce qu'on appelle les penseurs néo-calvinistes, donc des auteurs du 19e, 20e siècle qui ont essayé d'appliquer une pensée calviniste à la philosophie de à la théorie de la connaissance. Je cite juste des noms pour ceux qui seraient familiers, sinon ce n'est pas grave, des noms comme Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd et Cornelius van Til. Donc dans ce que je vais développer, pour ceux qui connaissent, vous allez sentir ces références ou ces influences, mais je ne veux pas maintenant passer du temps à présenter ces penseurs, mais simplement vous présenter quelques éléments qui me paraissent importants pour réfléchir donc à la non-neutralité de la science dans une perspective chrétienne. Alors, un thème qui me paraît important, et donc là qui vient directement en fait du néo-calvinisme, c'est le rôle fondamental de la foi avec cette parole biblique, Proverbe 1, Psaume 111, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, de la connaissance. Donc il y a la crainte du Seigneur, donc l'attitude religieuse en fait, oriente l'ensemble de la connaissance humaine. Et alors, pourquoi cela? Alors, déjà, le pécheur ne voit pas que le monde est créé. Et si on dit cela, ça veut dire que le pécheur ne comprend pas le monde tel qu'il est vraiment. Donc, il ne voit pas le monde pour ce qu'il est. Et on doit donc s'attendre à ce que sa connaissance du monde s'en trouve déformée, parce qu'il ne voit pas l'origine du monde. Et il me semble qu'on peut souligner un aspect en particulier, c'est que l'homme pécheur aura tendance à idolâtrer un aspect de la réalité créée. Donc l'homme étant un être religieux, s'il ne croit pas à Dieu le Créateur, il va se trouver d'autres dieux. Où est-ce qu'il va les trouver? À l'intérieur du monde. Et donc il va donc prendre en général, soit il va prendre le monde entier dans une conception panthéiste, mais très souvent il va en fait privilégier un aspect du monde. Et l'idolâtrer, ça ne veut pas simplement dire se mettre à genoux devant une statue en bois, donc il y a des formes d'idolâtrie plus subtiles. Et donc si je prends donc un aspect de la réalité comme fondamental, comme divin, comme divine, à ce moment, je vais essayer de faire dériver l'ensemble à partir de cet aspect. Et donc, il y a une certaine tendance au réductionnisme. Alors, pour les physiciens, nous sommes convaincus que c'est bien sûr la physique. C'est clair, vous discutez avec un physicien, c'est évident que la biologie, disons, la physique des êtres vivants est un peu trop complexe, c'est pourquoi on a besoin de biologie, mais si on avait des ordinateurs suffisamment puissants, on calculerait tout. Bon, les biologistes en général ne sont pas tout à fait d'accord avec nous, mais donc il y a donc une tendance au réductionnisme. On le constate, mais en neurosciences on le constate quand même. Donc en neurosciences, il y a une approche extrêmement réductionniste, Hein, donc, où on ne dit pas simplement, bon, j'explore les mécanismes physico-chimiques du cerveau, ça me paraît une démarche tout à fait légitime, mais je dis, c'est tout ce qui est à dire sur le cerveau, hein, la plupart du temps. Alors, peut-être une remarque encore, il me semble qu'on peut s'attendre à ce que le péché a des répercussions les plus fortes, plus qu'on s'approche du centre, hein, donc le centre, donc là, je dirais Dieu, hein, donc bien sûr, le pécheur a une vision tout à fait déformée de Dieu, mais donc ensuite on pourrait dire, il y a certainement encore des répercussions très fortes dans la vision de l'homme, hein, l'homme, image de Dieu, hein, si on a une idée fausse de Dieu, on ne peut pas avoir une vision correcte, hein, de l'homme qui est image de Dieu. C'est pourquoi, par exemple, je discute toujours avec un étudiant qui veut faire des études de psychologie. Bon, je dis pas qu'il ne doit pas le faire, mais je dis, fais bien attention d'être en contact avec des psychologues chrétiens qui te font réfléchir aussi à la vision biblique de l'homme. Ne prends pas tout ce qu'on va te raconter dans tes études comme argent comptant. Et il me semble, c'est peut-être le préjugé là de quelqu'un qui est profane, disons, en psychologie, qui a effectivement là encore des répercussions très fortes aussi, hein, qui viennent de la vision du monde. Répercussions, je pense, qui s'estompent un peu, quoi, quand on va en biologie, quand on va en physique, qui sont pas absentes. Hein. Donc le désaccord dont j'ai parlé tout à l'heure sur la mécanique quantique entre Einstein et le reste de la communauté scientifique était très largement motivé par des considérations philosophiques, même en fait il faut dire religieuses, hein, donc chez Einstein, dans une vision déterministe, donc d'après Spinoza, du monde. Alors, donc quelques éléments qui favorisent la neutralité, ou si vous voulez l'objectivité de la science, des éléments qui favorisent la non-neutralité de la science. Donc bon, ça a l'air disons maintenant si j'étais post-moderne, hein, donc ce serait l'exposé donc qui se complaît à vous présenter des opposés. Alors bon, c'est plutôt la dialectique. Je vais vous présenter maintenant une synthèse. Hein. Et pour vous présenter la synthèse, donc je m'inspire en fait d'une idée, d'une expression qui vient de G.K. Chesterton. Donc il parle des vérités devenues folles. Alors je vais expliquer son idée. Donc Chesterton, un écrivain anglais qui a largement influencé C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être pour ses histoires du père Brown, donc ces histoires de détective, donc le prêtre, donc le père Brown, donc, qui est un prêtre catholique qui aime jouer au détective et qui bien sûr résout toujours tous les énigmes alors que la police se trouve bien impuissant. Donc Chesterton donc parle de vérité devenue folle. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Donc chez lui, ça se passe, disons, je pense pas que ça soit spécialement, disons, par rapport à la science, mais il me semble que c'est son idée de base, se transpose assez facilement. En fait, ce que dit Chesterton, c'est que la civilisation occidentale moderne doit énormément à la vision biblique, aux judéo-chrétiennes du monde. Et donc il y a, alors ce n'est certainement pas la seule source d'inspiration, mais c'est une source d'inspiration très importante. Mais donc des idées donc judéo-chrétiennes qui se sont émancipées, ou qu'on a émancipées, hein, donc coupées de leurs sources originales. Du coup, on a absolutisé ces idées et perverti. Hein, elles sont devenues folles. Alors, je vous donne un exemple. La valeur de l'individu. Une idée biblique. Et d'ailleurs, semble-t-il, donc, d'après ce que certains m'ont dit, moi, je peux pas juger de la question, ce serait vraiment une particularité de la vision biblique, hein, de souligner l'importance de l'individu. Hein, la valeur de chaque être humain, hein, si on va dans d'autres civilisations sans contact avec la pensée biblique, vous ne la trouvez pas, en tout cas vous ne la trouvez pas affirmée de façon aussi nette. Hein, donc chaque homme créé en image de Dieu, on le trouve chez le prophète Ézéchiel, hein, la responsabilité de chacun, hein, pour son propre péché, donc devant Dieu. Donc, c'est une idée très importante pour la civilisation occidentale moderne. Alors, aujourd'hui, très largement sans référence biblique, la valeur de l'individu, et du coup, cette vérité a été absolutisée, et on est passé de la valeur de l'individu à l'individualisme, et donc l'individu qui est exalté parfois même aux dépens de toute relation de la communauté. Alors, appliquer à la science cette idée-là, souligner le fait que la science moderne incorpore certaines convictions créationnistes. Alors, attention, j'utilise le terme créationniste simplement dans le sens de la doctrine de la création, c'est la conviction que le monde est créé. Je ne me prononce pas, sur la façon ou sur la durée de la création. Aujourd'hui, c'est vrai, très souvent, on utilise, un usage anglo-saxon américain de ce terme, ici créationniste, simplement l'idée donc que le monde est créé. Et donc, la science moderne incorpore très certainement des présupposés ou des convictions qui sont motivées par la doctrine de la création, que le monde a un ordre objectif, que l'homme est capable de saisir au moins partiellement cet ordre, qu'il est bon d'explorer l'ordre matériel. C'est une perspective bouddhiste, par exemple. Il n'y a aucun intérêt à explorer le monde matériel. Il faut au contraire se détacher du monde. Donc, il y a là donc des convictions, alors qui sont déjà en harmonie avec une perspective créationniste du monde. Même historiquement, on peut montrer que l'idée de création a été une source d'inspiration importante au moment de la naissance de la science moderne, donc 16e, 17e siècle. Et je pense aussi, il faut rajouter le fait que la science ne peut pas fonder ses convictions elle-même. Et d'ailleurs, la plupart du temps, en fait, le scientifique ne se pose pas la question. Donc, ne pose pas la question pourquoi la science est-elle possible. On va simplement prendre, considérer qu'elle est possible, point. Et on ne va pas se demander pourquoi elle est possible. Et donc, on aboutit à une situation que j'ai appelée l'incohérence heureuse du non-croyant. Il utilise en fait une méthode scientifique qui incorpore certaines conventions bibliques sans croire en Dieu. Ce qui est incohérent, s'il était tout à fait cohérent avec sa vision du monde, il ne devrait pas donc accepter ses convictions. Mais une fois en fait les présupposés de la démarche scientifique acceptés, on ne s'interroge plus sur le bien fondé, et donc il y a une très large collaboration possible entre scientifiques de convictions religieuses divergentes. Mais alors, quand la science est pratiquée sans la foi, les vérités incorporées, les vérités bibliques incorporées deviennent folles. Du fait d'être absolutisée, elle se trouve pervertie. Et il me semble intéressant aussi, dans une réflexion entre scientifiques chrétiens, de voir dans quelle mesure certains usages peut-être de la science, ou certains espoirs mis dans la science, relèveraient de cette folie qui viendrait donc du fait que la science est coupée aujourd'hui très largement de la foi en Dieu. Alors, je vous donne juste trois éléments, et je pense qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait souligner. C'est l'omniscience de la science, ou l'omniscience prétendue de la science. Donc, la science, alors, sait tout, ou au moins saura tout. Alors, maintenant, on peut se dire, est-ce que c'est la science, ou est-ce que c'est un certain usage de la science? Je pense qu'il y a là peut-être une nuance qui s'impose. Mais pour beaucoup, la science est l'unique guide vers la vérité. Tout ce que la science ne permet pas de savoir, en fait, n'existe pas, ou en tout cas, est sans intérêt. Et elle est quand même très largement aussi considérée comme un guide infaillible. Au moins, la science future, perfectionnée. Donc, il y a là, je dirais, un fantasme. Donc, dont la science se trouve investie. Alors, l'illusion de la toute-puissance technique. Je me rappelle un exposé, bon, on était sorti tout juste du bac, donc c'était un jeune étudiant, c'était pas un scientifique, mais qui disait que de toute façon, les conséquences disons, météorologique de la technique humaine était telle que la seule solution, c'était de prendre résolument en main le climat mondial. Donc, allons-y, c'est nous qui gérons le climat humain. De toute façon, il n'y a pas d'alternative à cela. Moi, ça me fait plutôt peur de penser à cela, mais je pense que dans tous les débats d'ailleurs sur la crise climatique, il y a quand même derrière aussi un fantasme sur la toute-puissance technique de l'homme. Et on pourrait terminer sur le mythe du progrès. Donc la science va toujours de progrès en progrès, et surtout le progrès scientifique et le progrès par excellence. Donc s'il s'agissait par exemple de mesurer progrès scientifique, progrès moral, relationnel, je pense quand même très souvent on favoriserait le progrès scientifique. Et un argument qui dirait non, là, une certaine recherche est trop dangereuse dans ces applications, par exemple, en général, ces arguments sont préemptés, et on dit non, c'est le progrès scientifique qui passe d'abord. Alors, je ne conclue pas, parce que la journée n'est pas conclue, il y a maintenant des interventions qui relève davantage de la pratique scientifique et aussi de la vie personnelle du chercheur. Et de toute façon, il y a une synthèse, donc l'après-midi, ce qui m'enlève le difficile devoir de conclure mon intervention. Mais j'espère quand même vous avoir apporté quelques éléments de réflexion.